Bonjour à tous. Alors moi j'aime beaucoup être ici à Montélimar. À chaque fois que je viens, je me sens très bien accueilli. Ah super, il y a tout ce qu'il faut. Merci Olivier. Et merci à l'équipe justement pour votre humilité. Justement Olivier, je trouve que dans l'équipe, dans votre église, il y a la présence de Dieu, il y a d'humilité, il y a de bonnes choses. Et on retrouve la culture que moi j'expérimente à Marguerite. D'une louange sincère, authentique, et d'être proche du cœur de Dieu, c'est quelque chose qui est précieux. Alors je ne sais pas si tout le monde me connaît ou si tout le monde me situe, mais en deux mots, pour s'il y a des nouveaux venus, je sais que vous êtes une église dynamique, et franchement quand je vois ce qui s'est passé en quelques années ici, c'est extraordinaire. Vous êtes une église qui donne envie d'implanter. Voilà, que ce soit dit. Et chacun a son appel avec Dieu, et quand j'ai vu ce qui s'est passé ici, je me suis dit, tiens, un jour, j'aimerais bien faire ça. Parce que franchement, c'est génial. Donc ouais, je suis de l'église de Marguerite, de l'Assemblée chrétienne de Marguerite, et je suis actuellement au service de Dieu au titre de l'aumônerie militaire. Je suis pasteur à la 11e brigade parachutiste, où je soutiens les troupes aéroportées en France et à l'étranger, et notamment cet été où je repars en Afrique subsaharienne, soutenir les troupes, témoigner de Dieu, faire de l'humanitaire, et toutes ces choses qui témoignent de notre royaume dans ce monde. Voilà. Et juste une petite digression pour commencer, il faut savoir que le domaine militaire, l'armée, c'est un monde où la dimension spirituelle est omniprésente. Il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent, qui se posent des questions. Et comme ils sont confrontés au domaine de la violence et de la mort, ils sont confrontés plus vite que certains aux questions de qu'est-ce qui se passe après si je pars, si je meurs. Et là, ils sont attentifs à ce que peut dire la foi chrétienne de façon vraiment mais concrète et de la présence de Dieu. Donc moi, quand je me balade dans les avions, dans le désert, quand je vais sur des convois, j'ai toujours ma petite guitare dans le dos, quelques chants, une petite Bible, je les suis et je témoigne comme ça, et ils écoutent, ils sont attentifs. Et juste un dernier témoignage sur ça, quand on prend les jeunes soldats, qu'on les amène dans le désert, voir des petites assemblées chrétiennes, des gens pauvres qui vivent la guerre et qui sont, on pourrait dire, dans le désespoir, et on les voit louer le Seigneur et qu'ils ont le feu, eh ben, quand nous on y va, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'a pas? Et souvent ils se disent, ben voilà, ils ont Dieu, et malgré tout le contexte, ils adorent Dieu et c'est extraordinaire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever. Et ces gens nous obligent à réformer notre définition du bonheur et de ce que Dieu peut apporter dans nos vies. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Franchement, il y a des belles choses. Alors, je ferme ma parenthèse sur l'armée, quoique on va parler d'un homme ce matin qui a été un guerrier, le roi David. Et Olivier, si je ne me trompe pas, vous êtes sur une série sur David. En fait, quand Mathieu m'a envoyé le mail pour me demander si je pouvais venir prêcher, tout de suite, je me suis dit, je vais parler du roi David. Mais je ne savais pas. Je lui ai demandé, mais est-ce qu'il y a un thème, un texte que vous voudriez que j'aborde? Il m'a dit, on est sur une série sur David. J'ai dit, ah, ben voilà. Comme quoi, Dieu fait bien les choses. Et voilà. Olivier, j'ai écouté ton message du 13 octobre notamment, où tu rappelles que David a eu de nombreuses victoires par son courage. Ça m'a beaucoup encouragé, moi aussi. Et tu as aussi dit que David a été un homme qui a épargné un roi avant lui, le roi Saül, qui aurait pu le tuer plusieurs fois. Et vous savez, pour l'histoire, pour comprendre David, je vais faire simple, je vais raconter une histoire ce matin. En ce moment, je relis les chroniques, le livre des rois, c'est extraordinaire, parce que c'est que des récits, bon, il y a des récits guerriers, il y a des récits de réforme sociale, mais il y a aussi des récits sur la quête de Dieu. Ces livres, c'est la quête de Dieu. Et j'aimerais parler d'une histoire qui concerne le roi David. C'est une histoire qui est très simple, anecdotique, comique quelque part. C'est une rencontre qu'il va faire dans un épisode de sa vie et qui va le poursuivre jusqu'à son dernier souffle. Et j'aimerais vous en parler et ensuite voir à quel point cela glorifie Dieu et Jésus dans nos vies, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est un épisode où David va être traqué. Il va être traqué par son fils Absalom. Alors pour ceux qui connaissent l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas aussi, il faut savoir que... Je vais dézoomer de façon encore plus large, vous allez voir. De façon encore plus large. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu a toujours un plan dans nos vies? Il a toujours un plan? Depuis le début des Écritures, il a un plan. Et ce plan, c'est de faire connaître son nom au monde entier et son salut au monde entier. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est ça la Bible. Et pour ce faire, il va choisir un homme, Abraham. Abraham va devenir une famille. Cette famille va devenir un peuple. Et ce peuple devra être le témoin de Dieu aux nations. Israël va être témoin de Dieu aux nations. Donc c'est très simple. Un homme, un peuple, une nation, il va leur donner une terre, la terre d'Israël, et sur cette terre, ils devront témoigner de Dieu. Si vous voulez, c'est ça l'objectif. Et tous les rois qui régneront sur Israël auront pour but, tu peux mettre les quatre images, ouais, tous les rois qui vont régner en Israël auront pour but de témoigner, de contribuer à ce que le peuple témoigne de Dieu aux nations. Et pourquoi je vous dis ça ce matin ? C'est parce que pour comprendre David, il faut comprendre qu'il ne va jamais séparer de son esprit l'épopée guerrière qu'il va vivre de son épopée spirituelle. Il ne va jamais séparer son rôle en tant que roi et sa vie spirituelle. Jamais. Et c'est ce qui va nourrir sa bravoure et son courage. Et ça, c'est déjà un premier enseignement pour nous, parce que si on n'a pas la conviction que ce qu'on fait, on le fait avec Dieu, ce sera vraiment différent. Ouais, tu peux afficher... Non, tu peux revenir sur... Ouais, ça ne marche pas. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a quelques photos d'époque à vous montrer. Voilà. Si on n'a pas la certitude que Dieu est avec nous, on ne vivra pas la même chose. Ouais, tu peux le présenter comme ça, sinon. Donc, vous voyez, Abraham, une famille, un peuple, une terre. Voilà comment Dieu va vouloir se communiquer au monde, et David aura conscience de ça. Il va se dire, cette terre qui nous est donnée, c'est pour témoigner de Dieu au monde. Donc il ne sépare jamais l'épopée guerrière de l'épopée spirituelle. Et c'est quelque part la clé de son courage. Et c'est aussi probablement ça qui le rend aussi sensible dans ses psaumes, dans tout ce qu'il va écrire. Hein. Jamais il va se dire, je fais la guerre pour la guerre. Je fais la guerre parce que derrière il y a une cause, c'est celle de Dieu, c'est celle du témoignage aux nations. Voilà, je voulais poser ça avant de rentrer dans l'histoire. Et comme je vous l'ai dit, je vais raconter un épisode où le roi David va fuir. Il va fuir Jérusalem. Pourquoi ? Parce que son fils Absalom va faire un coup d'État. Alors encore une fois, l'histoire est simple et malheureuse pour David, hein, c'est un peu le côté noir. Pourquoi ? Parce qu'un soir d'été, David, au lieu d'aller à la guerre, il va rester sur les terrasses de Jérusalem au frais, et il va apercevoir, au lieu d'être avec les troupes, il va apercevoir une femme qui s'appelle Bethsabée, et, bon, vous connaissez l'histoire, il va commettre l'adultère avec elle. Et elle va tomber enceinte. Pouf ! Double coup dur. Et pour étouffer l'affaire, ce que va faire David, c'est qu'il va dire au mari de Bethsabée, qui s'appelle Uri, rentre du combat, parce que lui c'est un officier de l'armée, rentre vite à Jérusalem, j'ai besoin de toi. Et Uri répond cette terrible réponse pour David, je n'abandonne pas les troupes sur le terrain. Vous voyez là, en termes d'honneur, ce sont deux poids deux mesures. Alors David va voir son frère Joab, qui commandait les opérations sur le terrain, en disant, on va faire un stratagème en place. Tu vas faire en sorte qu'Uri se retrouve tout seul sur le champ de bataille, il se fera tuer, et c'est ce qui se passe malheureusement. Adultère, meurtre, corruption de l'appareil judiciaire, de l'armée, un truc énorme. Et plus tard, c'est le prophète Nathan qui va révéler toute l'histoire. Il va révéler toute l'histoire, si bien que tout le peuple va tomber dans l'effroi. Tout le peuple va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec David ? Il a commis l'adultère ? Il a commis le meurtre, il a corrompu le peuple, il a corrompu le pouvoir judiciaire, l'armée, enfin tout quoi. On lui faisait confiance, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, il était sensible, il écrivait des choses si belles, et là, il est tombé. Et Absalom, justement son fils, va profiter de cette crise de confiance du peuple pour faire une tournée politique. Il va se balader à Jérusalem, il va voir les gens, il va plaider des causes perdues, il va circuler en char comme un homme de guerre, comme son papa. Il va faire comme son papa, il va se faire aimer des gens, mais ce qu'il y a derrière, c'est qu'il veut faire un coup d'État. Donc pas très très chouette. David, sa popularité baisse, la popularité d'Absalom monte, et une fois qu'elle est assez haute, Absalom va prendre des hommes et il va marcher sur Jérusalem. Et David va fuir Jérusalem. Vous voyez, c'est encore une fois, c'est pas une histoire très compliquée. Et si vous voulez, David va se dire à ce moment-là, il va se dire... Je ne vais pas affronter mon fils, je vais fuir, parce qu'en fait, je crois que ce qui se passe, c'est le jugement de Dieu sur ma vie. Dieu ne lui a pas dit ça, hein, mais il va interpréter les événements en disant, ben voilà, je vais le laisser marcher sur Jérusalem, je vais fuir, je ne vais pas affronter mon fils. C'est dans cette fuite qu'il va écrire d'ailleurs de très beaux psaumes, de très très beaux psaumes, notamment le psaume 23, hein, il va se réfugier, il va écrire des belles choses sur la fidélité de Dieu. Il ne veut pas affronter son fils, il ne veut pas le tuer, certainement pas, il veut juste attendre que ce jugement passe. Déjà, on voit un petit peu, il tire des leçons de ce qui s'est passé. Donc, il ne veut pas l'affronter, il se dit, bon, c'est comme ça. Et dans sa fuite, et c'est ça qui va nous intéresser, parce que moi j'aime bien les petits passages un peu anecdotiques qu'on passe un peu vite, Dans sa fuite, il va faire la rencontre d'un homme qui va lui faire mais aucun cadeau, mais 0% cadeau. Et ça, ce passage, vous le trouvez en 2 Samuel 16, à partir du verset 5. Normalement, il devrait y avoir le... Voilà, c'est là. 2 Samuel 16, à partir du verset 5. David fuit Jérusalem. Son fils veut le renverser. Il a commis l'adultère, le meurtre. Un prophète a révélé son péché. C'est difficile pour lui. Il a tout ça sur le dos. Et regardez ce passage. Le roi David était arrivé à Bakourim. Et voici qu'un homme du clan de la famille de Saül, un dénommé Shimei, fils de Guéra, sortit de là. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres au roi David ainsi qu'à tous ses serviteurs, alors même que tout le peuple et tous les hommes vaillants se tenaient à la droite et à la gauche du roi. Voici ce que disait Shimei en le maudissant. Et regardez comment il y va. Hein. Il y va très fort. « Va-t'en, va-t'en, homme sanguinaire vaurien. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. Tu as régné à sa place et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà donc malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. » Il tire sur l'ambulance. Il n'y a pas d'autre mot. Vraiment, il condamne. Il dit qu'il est un homme sanguinaire. Il fait référence à son péché de l'adultère et du meurtre. Sauf que les amis de David se disent « Tu ne peux pas laisser faire ça. Tu ne peux pas laisser faire ça. » Et juste dans le passage d'après, Abishai, fils de Tseruja, dit alors au roi, « Pourquoi ce chien mort, maudit-il le roi, mon seigneur, laisse-moi donc aller lui couper la tête. » Donc, un règlement de compte. Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? S'il profère des malédictions, c'est que l'Éternel lui a dit, « Maudit David, qui donc pourrait lui dire, pourquoi fais-tu cela ?» Donc vous voyez bien que pour David, c'est le jugement divin qui tombe sur lui. Puis David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Mon fils, celui qui est issu de moi, en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjaminite, laissez-le et qu'il me maudisse. Si l'Éternel lui a dit de le faire, donc il insiste, hein, il réitère le fait que pour lui c'est un jugement divin, peut-être l'Éternel verra-t-il ma détresse et me fera-t-il du bien au milieu des malédictions d'aujourd'hui. » Donc voilà, pour David, peut-être que tout son malheur et tout ce jugement fera en sorte que Dieu change son avis et ne le juge pas. Voilà, c'est un petit peu son état d'esprit. Mais Shimei ne lâche pas l'affaire, c'est le passage d'après. David et ses hommes continuèrent leur chemin. Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et tout en marchant, il le maudissait, jetait des pierres contre lui et faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent épuisés au bord du Jourdain. Et là, ils reprirent leur souffle. Donc c'est pas juste qu'il lui dise ce qu'il pense, il va le suivre tout le long. Il va lui jeter. Faut s'imaginer la scène, hein. Il le suit tout le long, il lui jette des pierres, il fait voler, il fait de la poussière, enfin vraiment, il l'humilie, il veut le pourrir, et continue. Comme si on n'avait pas compris ce qui se passait. Et vraiment un moment où c'est difficile pour David. C'est vraiment un moment où c'est difficile. Il s'est humilié face à son péché. Voilà, il n'a pas dit au prophète Nathan, tu as menti. Il a dit, ok, d'accord, j'ai péché. Mais il y a des gens comme ça qui continuent d'appuyer. Vraiment dans le jugement, quoi. Et pourtant, David laisse faire. Et ils arrivent, ils sont crevés. Juste reviens en arrière, s'il te plaît. Donc voilà. Et vraiment, il est crevé. Et justement, les amis de David vont continuer de dire à David, et là, tu peux le mettre, le premier, Shimei, ne doit-il pas mourir ? Alors, juste reviens en arrière. Ouais, s'il te plaît. Shimei, ne doit-il pas mourir pour avoir maudit celui que l'Éternel a désigné par onction ? Hein ? Donc ça, c'est le passage qu'on a vu. Et vraiment, bon, il arrive à supporter ces cailloux qui reçoivent. Et là, tu peux mettre le suivant, ouais. Au moment où le roi traversait le Jourdain... Non, juste reviens. On va enlever ça. Excusez-moi, j'ai un petit bug. Donc, David se prend des cailloux par Shimei. Et les amis de David lui disent, il faut le tuer. Et David va lui dire... « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? Et pourquoi êtes-vous aujourd'hui mes adversaires ?» Écoutez bien ce qu'il va dire à ses amis. On a un homme qui le maudit, il y a ses amis qui lui disent « Tue-le !» Écoutez bien ce qu'il dit. « Devrait-on faire mourir un homme en Israël aujourd'hui? N'ai-je donc pas la certitude que je règne aujourd'hui sur Israël ?» Puis le roi dit à Shimei, « Tu ne mourras pas !» Et il lui en fit le serment. Il lui fait grâce. Je ne sais pas si on s'est déjà moqué de vous à cause de votre foi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des moments où on vous a condamné, jugé, on vous a rappelé des choses. David, c'est le roi, il a été oint pour être roi, Dieu l'a désigné, il est humilié, il se prend des cailloux, on fait voler la poussière autour de lui, on le suit, on veut l'humilier, on veut lui faire vraiment du mal, quoi. Et pourtant, il dit à Shimei, tu ne mourras pas. Et il lui fait le serment qu'il ne mourra pas. Il lui fait grâce. Il lui fait grâce. Et on peut rendre justice à David sur ça. Ok, il a fait l'adultère, le meurtre, il a reconnu son péché, il fuit, il ne veut pas affronter son fils, il accepte quelque part une forme de jugement de Dieu, même si ce n'est peut-être pas ça. Il y a quelqu'un qui va lui jeter des cailloux, qui va l'humilier sur des kilomètres et des kilomètres, qui va probablement lui faire du mal, vraiment faire du mal à son cœur. Et le roi dit à Shimei, tu ne mourras pas. Et il lui en fait le serment. Tout le monde s'attendait à ce qu'il le tue. Il aurait pu le tuer. Il envoie un de ses hommes, il lui coupe la tête, comme il dit. Il ne l'a pas tué. Il n'a pas tué. Le roi David n'a pas tué Shimei. Et ça, ça nous fait penser au fait que Jésus aurait pu lui aussi utiliser les armes, il ne l'a pas fait. Mais David, au cœur de son péché et dans sa tourmente et dans sa souffrance, il choisit de ne pas tuer Shimei. Je voulais qu'on s'arrête 2 minutes sur ça parce que je trouve que ça mérite réflexion pour nous quand on nous fait du mal, quand on nous calomnie, quand on nous fait des choses vraiment difficiles et que les autres nous disent « mais vas-y, rends-lui la monnaie de sa pièce, te laisse pas faire ». David dit « non, je te fais le serment, je ne toucherai pas à ta vie ». Je ne toucherai pas à ta vie. Il aurait pu le faire. C'était toujours le roi oint par Dieu. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Et il ne tire pas vengeance de cela. Il ne tire pas vengeance de cela. Il lui fait grâce. Souvent, on dit que dans l'Ancien Testament, dans ces passages-là, c'est plus la justice qui s'exerce que la grâce. Là, franchement, on voit l'inverse. David fait grâce à Shimei. Il aurait pu lui mettre plein la tête. Il aurait pu prendre les armes. Il aurait pu dire, on y va. Il a dit non. Je vais continuer sur cette route et je vais lui faire grâce. Alors j'aimerais vous dire que entre Shimei et David, ça se termine là, mais je vais aller un peu plus loin dans l'histoire pour ensuite en arriver à Jésus. Parce que plus tard, je vous passe les circonstances, mais la révolte d'Absalom va tomber à l'eau et Absalom va mourir. David va pleurer sur son fils. Il ne voulait pas le tuer, il ne voulait pas l'affronter, mais dans des circonstances difficiles, son fils va mourir. David revient à Jérusalem. Il revient à Jérusalem et c'est là où on a cet épisode où il lui fait grâce, d'accord ? Hein ? À ce moment-là, il lui fait grâce, c'est quand il est de retour. Mais la dernière chose qu'il faut ajouter, c'est qu'on retrouve David plus tard sur son lit de mort. Plus tard sur son lit de mort. Et il va parler à son fils Salomon. Juste, tu peux l'enlever, s'il te plaît ? Ouais, merci. Il va parler à Salomon et il va lui donner ses dernières instructions. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il va dire ? Ouais, je vois des petits signes de tête. Je résume. David fuit Jérusalem parce que son fils veut le tuer. Sur le retour, quand il revient à Jérusalem, il recroise Shimei et lui dit « Je te fais grâce, je te tue pas ». Il remonte, il reprend le trône. Plus tard, sur son lit de mort, il est avec son fils Salomon, il lui dit « Voilà, je vais te donner mes dernières instructions et là tu peux mettre le passage ». Voici, il y a près de toi Shimei, le fils de Guéra, le benjaminite de Bakourim. Il a prononcé de violentes malédictions contre moi le jour où je me suis rendu à Manaïm. Mais il est descendu à ma rencontre vers le Jourdain, et je lui ai juré par l'Éternel que je ne le ferai pas mourir par l'épée. Mais désormais, ne le laisse pas impuni, car tu es un homme sage, et tu sais comment tu dois le traiter pour faire descendre dans le sang ses cheveux blancs au séjour des morts. Pfiou. David se coucha avec ses ancêtres et il fut enterré dans la ville de David. Je résume. Absalom veut chasser David de Jérusalem. David fuit Jérusalem. Il accepte de ne pas affronter son fils. Son fils échoue à faire un coup d'état. Dans cette fuite, David voit Shimei qui le pourrit. Quand il revient à Jérusalem, il recroise Shimei et lui dit « Je te fais grâce. Je ne te tuerai pas. Je t'en fais le serment. » Des années plus tard, on retrouve David sur son lit de mort et il dit à son fils « Souviens-toi de Shimei, il ne faut pas qu'il vive. » En plus, c'est écrit, il a des cheveux blancs. Ça y est, l'histoire est passée. Il va quand même lui dire ça. Alors vous allez voir pourquoi je dis ça. Ce n'est pas juste pour parler de David en mauvais termes, parce que ça restait un homme de son temps. Mais les premières actions de Salomon consisteront à battre à mort les ennemis de David. C'est ça qu'il faut savoir aussi. Parce qu'il va sortir Shimei et ils vont le battre à mort. Et je crois que Shimei, c'est le premier qui y passe. Alors, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est qu'on a tous déjà été ennemis du grand roi. On a tous déjà été ennemis de Jésus, n'est-ce pas ? Il y a eu une période de nos vies où on ne le connaissait pas et où on était par nature ses ennemis. Et on lui a tous déjà attribué des choses difficiles et injustes. On a tous déjà dit de Jésus des choses qui étaient injustes, peut-être, parce qu'on ne le connaissait pas. Et on méritait tous ce jugement-là du roi qui dit « Je me souviens de ce que tu as dit sur moi, je me souviens que tu étais mon ennemi, il n'y a pas de raison que tu vives. Il n'y a pas de raison que tu vives. Pourquoi ?» Là, David veut faire mourir Shimei à la fin de sa vie parce qu'il s'est moqué de lui. Il a dit « Tu t'es moqué de moi. Donc, je meurs, tu pars avec moi. Si je meurs, tu pars avec moi. » Quelque part, leur vie était liée à ça. Et la question que j'aimerais nous poser, c'est est-ce que vous pensez que Dieu, quand il nous dit « Je te sauve, je te fais grâce », est-ce qu'il changera d'avis ou pas ? Évidemment que non. Mais des fois, on peut douter de la bonté de Dieu. Des fois, on se dit « Est-ce que Dieu va être fidèle jusqu'au bout ? Est-ce que Dieu va apporter tout ce qu'il faut ? Est-ce que Dieu va rester fidèle à toutes ces promesses qu'il a pour moi ? Est-ce que finalement, il va m'accueillir ? Est-ce qu'il continue de m'accueillir avec cette bienveillance ? » Ça, c'est ce qu'on attendrait d'un roi humain. Et c'est vrai que David, c'était un roi humain. Il avait des qualités, c'est un homme de bravoure, de courage, mais il avait aussi ses vengeances et ses comptes à régler sur le plan humain. Pourtant, Jésus, alors moi je vais faire le lien entre Jésus et David, ils ont un point commun. Les deux sont allés à Jérusalem et on s'est moqué d'eux sur leur route. On leur a craché dessus, on s'est moqué d'eux. On les a humiliés, on les a frappés. Il y a des gens qui ont suivi Jésus sur toute sa route jusqu'à la croix pour se moquer de lui et lui faire du mal. Et en Luc 23, il est écrit « Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là et les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche, Jésus dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » À la fin de sa vie, dans l'humiliation, dans les brimades, il ne réclame pas la vie. Il dit « Pardonne-leur ». Vous voyez la différence entre deux rois ? Il y en a un qui est humilié, il dit « Je veux réclamer son sang au séjour des morts ». Il y en a un qui dit « Je te demande de leur pardonner ». Et il y a ce passage. La suite, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus en disant « Donc ils se moquaient de lui en disant « Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie choisi par Dieu ». Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ». Alors ça, c'est humiliant. C'est des moqueries. C'est blessant. C'est fait pour faire mal. C'est fait pour briser le cœur d'un homme. Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci, le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi ». Donc tout ça, c'est des moqueries. Il est moqué, il est humilié. Et la Bible dit qu'il aurait pu claquer des doigts et faire venir une myriade d'anges pour être vengé. Mais l'autre malfaiteur le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et Jésus lui dit « « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, vous avez le roi David et vous avez le roi Jésus. Et je trouve la comparaison là est à propos, parce que le roi David a été moqué par Shimei, et je cite, il a dit, « Fais descendre dans le sang ses cheveux blancs au séjour des morts. » Alors que quand le roi Jésus est moqué, qu'est-ce qu'il dit ? Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce sont deux phrases radicalement différentes. Avec moi tu seras dans le paradis. David emporte dans sa tombe Shimei et sa vengeance, avec toute la gloire qu'il a eue, mais je veux mettre en parallèle ces deux choses. Il emporte avec lui Shimei et sa vengeance. Jésus emporte avec nous, nous emporte dans le paradis. voyez les deux choses. Il y a deux hommes qui ont été moqués. Il y en a un qui dit « Je t'emporte dans le sang et dans le séjour des morts », il y en a un qui dit « Je t'emporte avec moi dans le paradis ». Et c'est ce qui se passe avec nous. Et je trouve que c'est extraordinaire. David a pu faire grâce un jour à Shimei, mais cette grâce, elle était humaine, elle n'a pas tenu. Jésus nous fait grâce, il ne nous dit pas « Je t'emporte avec moi dans le séjour des morts », il dit « Je t'emporte avec moi dans le paradis ». Tout le monde se moquait de lui, il les a pardonnés, il les a pris avec lui. Tout le monde, nous, chacun d'entre nous, il prend dans le paradis. Jésus n'a réclamé aucune vengeance. Aucune vengeance. Pourtant, les deux, David et Jésus, sont allés à Jérusalem, on s'est moqué d'eux, on leur a craché dessus. Mais pourtant, ce qu'ils vont emporter avec eux sera différent. Souvent, dans notre monde, on va emporter l'argent avec nous. On croit que l'argent survivra dans le tombeau. On veut tout prendre, le maximum. On amasse. Et puis quoi, ça reste ? Jésus, il nous prend, nous. C'est ça qu'il prend. Il nous prend, nous, dans son paradis, dans sa grâce. C'est tout ce qu'il prend. C'est tout ce qu'il prend. Avec moi, tu seras dans le paradis. C'est une phrase qui est valable pour chacun d'entre nous. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà ce qu'il prend. Et c'est tout ce qu'il prend. Sa grâce, son onction, sa paix, sa gloire qui est là. Alors encore une fois, je ne veux pas dire David c'était un mauvais homme. Il a eu sa gloire. D'ailleurs, la Bible lui rend hommage en disant quand même c'est un homme selon le cœur de Dieu. Il a rédigé des psaumes extraordinaires, c'était un homme doux, mais il a fait ses erreurs. Mais c'est pour voir les limites d'une grâce humaine qui, à la fin de sa vie, ressurgit en disant « Tu sais quoi, je meurs, tu meurs avec moi. » Jésus dit « Si tu meurs avec moi, tu vas vivre avec moi. Et tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. » C'est tout simplement ça que j'avais à cœur de nous rappeler ce matin, raconter cette histoire, vous voyez, qui est anecdotique, un homme qui se moque de David et de voir la grâce d'un homme, la grâce ici-bas, on la connaît la grâce ici-bas, elle est limitée, mais celle de Dieu, elle est illimitée dans nos vies, elle est illimitée, que ce soit pour toutes les promesses qu'il a pour nous, pour les bénédictions, pour les guérisons, pour sa présence, c'est illimité de dire « avec moi tu seras dans le paradis » et nous, on vit ici pour amener son royaume et son paradis. Quand on a la louange ce matin, qu'on sent la présence de Dieu, on a ce goût du paradis. C'est extraordinaire. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas un moment donné où Dieu va dire « Allez, je limite ma grâce ». Non, il n'y en a pas. Les seules limites de la grâce, c'est celles qu'on se pose nous. Ou comme on ferait comme David. Mais c'est ça la seule limite. Dieu n'est pas limité et il ne veut pas se limiter à nous. C'est à nous de lui ouvrir grand nos cœurs et de le laisser se déverser dans nos vies, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, dans tous les domaines. Que Dieu exerce sa grâce de façon illimitée. J'aimerais juste prier, si vous le voulez bien. Seigneur,